Je suis né il y a 40 ans, le 3 avril 1979 précisément. Je suis né il y a 40 ans et j'ai toujours entendu parler du réchauffement climatique. Dans ces termes-là précisément, réchauffement climatique, depuis que je suis né, depuis 40 ans. Je dis entendu parler parce que quand j'étais petit, c'était moins une peur qu'un genre de rumeur qui planait sur l'avenir, un refrain, une rengaine, une telle ritournelle qu'on ne l'écoutait pas vraiment mais qui était là tout le temps. J'ai regardé hier cette archive de l'INA qui me semble éloquente. C'était en 1979 justement, il y a 40 ans, sur Antenne 2, dans les dossiers de l'écran. À la question d'un téléspectateur, le scientifique et volcanologue Haroun Taziev répondait que la pollution industrielle pourrait bien faire fondre la grande banquise par ses quantités de produits chimiques, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Il pourrait y avoir un effet de serre général, disait-il, à la télévision, un réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère. Face à cette parole, le présentateur lui rétorquait qu'il était en train de paniquer les populations. Le commandant Cousteau, qui était à ses côtés, se mettait en colère. Et la scène avait effectivement quelque chose de surréaliste, parce qu'à aucun moment, on ne pouvait croire que cette parole était juste ou même possible, et pourquoi pas visionnaire. C'était il y a 40 ans, quand on parlait déjà de réchauffement climatique, dans ces termes-là, précisément.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui sait quelque chose du réchauffement climatique. Il parle de ce qui est chaud et quitte à jeter un froid. Depuis plus de 25 ans, il dénonce la corruption, les guerres, le sort réservé aux migrants, le diktat de l'argent. Mais c'est bien d'urgence climatique qu'il nous parle dans Le Monde est chaud. Son nouvel album sorti le 17 mai dernier. Bonjour Tiken Jafakoli.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin à mes côtés. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous donne chaud à vous aujourd'hui? Chaud à vous en faire froid dans le dos, tiens.
Mais c'est l'urgence climatique. C'est voilà, je pense que on doit absolument faire quelque chose.
Mais à quel moment de votre vie est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique vous est apparue comme une évidence, comme une urgence, justement? Mais,
moi, c'est surtout que j'ai remarqué que souvent les gens ils attendent qu'il fasse froid et puis il fait chaud. Et puis, il y a des moments où les gens se disent, ben, il va faire chaud maintenant, à partir de telle période, et puis il fait froid, on comprend pas. Donc ça, je me suis dit, qu'il doit y avoir quelque chose, la planète doit être forcément perturbée. Et puis, j'ai vu aussi, en Afrique, comment les gens, jettent les sachets plastiques un peu partout. Et j'ai vu un reportage un jour, et il y avait, un petit continent de sachets plastiques dans l'océan, je crois.
Oui.
Et c'est tout ça qui a attiré mon attention.
À noter qu'on a appris que la Malaisie allait renvoyer tous ses déchets aujourd'hui précisément. Mais sur le continent africain, Tiken Jafakoli, quelles conséquences est-ce que vous lui imaginez à ce dérèglement climatique?
Je pense que le continent africain paye déjà très cher, hein, parce que vous venez de le dire, c'est les usines et autres qui polluent. Donc c'est les pays occidentaux qui ont pollué pendant des années dans leur processus de développement, et l'Afrique n'a pas participé, hein, à la fabrication de tout ce qui y a aujourd'hui, je veux dire. Donc du coup l'Afrique est victime, c'est-à-dire qu'on n'a pas participé, on n'avait pas d'usines qui polluent, etc. Et puis aujourd'hui les conséquences sont là.
Mais ça veut dire quand même que c'est un sujet dont votre continent doit à tout prix s'emparer. Vous qui êtes un observateur critique et aguerri de la politique, dans quelle mesure les dirigeants africains, à commencer par ceux de votre pays, hein, la Côte d'Ivoire, s'engagent dans la lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui?
Mais j'avoue que il n'y a pas vraiment, je ne sens pas. Moi, je sens pas vraiment de mobilisation des politiques au niveau de l'Afrique. Il y a un pays aujourd'hui qui est cité un exemple, c'est le Rwanda. Effectivement, j'ai eu la preuve. Je suis allé au Rwanda, j'ai vu une ville propre, j'ai même vu un pays propre, un pays au travail. Mais les autres pays, je vois pas de sensibilisation. J'entends pas vraiment parler. Il y a pas de parti écologique. Et puis je remarque pas de sensibilisation générale. Je pense que ça fait partie des derniers soucis des dirigeants africains qui ont la pression des populations et qui veulent développer, faire des routes, construire des usines, des trucs comme ça. Je pense que ça fait, ma remarque, c'est que ça fait pas partie des priorités et c'est dommage.
Dans Le Monde est chaud, votre titre, Tiken Jafakoli, vous pointez du doigt les Pinocchio pathétiques. Qui sont-ils, ces Pinocchio, qui mentent avec aisance, dites-vous?
Mais quand le président d'un pays moteur, comme les États-Unis, donc dit qu'il ne croit pas au réchauffement climatique, ça inquiète. Voilà. Et Donc ce morceau, je l'ai fait pour sensibiliser les populations, mais aussi pour dénoncer l'inaction des dirigeants de ce monde qui organisent des grandes réunions à Paris, à Marrakech, et puis après on attend. On ne sait pas ce qui se passe. Et donc voilà, c'est de ceux-là que je parle.
Mais alors comment on fait pour lutter contre la parole des menteurs? Qu'est-ce qu'on fait?
Mais je pense qu'il faut continuer à dénoncer. Il faut continuer à éveiller les populations. Et dénoncer,
à manifester.
À manifester. Et je pense que les manifestations, en tout cas, c'est très important. C'est pourquoi la dernière fois, on a vu à Londres, un peu partout en Europe, les élèves s'étaient mobilisés. Je pense que ça, c'est un bon signe. Parce que les élèves, les enfants, c'est l'avenir. Et donc, si eux commencent à se mobiliser, ça donne l'espoir. Mais si on voyait que les enfants se disaient, bon, on s'en fout, on fait notre vie, là, on allait s'inquiéter. Mais le fait de voir aujourd'hui des enfants se mobiliser, moi, ça me donne beaucoup d'espoir.
On fait de la musique aussi, oui, pour lutter.
Ah oui.
Ça
ah
marche.
Oui,
ouais. Vraiment. Parce que quelle responsabilité est-ce que ça vous donne, ça, en tant qu'artiste, justement, cet engagement?
Une grande responsabilité, parce que j'ai une voix, et je pense que cette voix, elle mérite d'être... mise au service de la sensibilisation, de l'éveil de conscience, etc. Et donc voilà, moi je fais du reggae, et donc je pense que depuis Bob Marley, cette musique-là, elle a décidé d'être la musique des sans-voix, elle a décidé d'être une musique de combat, et donc c'est ce que je continue.
Quand est-ce que vous avez compris que la musique pouvait avoir une dimension politique, Tiken Jaffa Coli?
Mais depuis que j'écoutais Bob Marley, j'étais dans mon petit village, je ne comprenais pas l'anglais, et j'avais peut-être 13 ans, et puis j'écoutais Bob Marley, j'ai dansé sur sa musique. Et puis un jour, il y a un jeune anglophone qui passait, donc un jeune Ghanéen qui passait dans mon village, qui était de passage, pardon. Et puis je vais lui demander, j'ai dit, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que Bob Marley dit dans cette chanson?
C'était quelle chanson?
Je crois que ça devait être Get Up, Stand Up. Voilà, pour moi, c'est un morceau qui va vivre pendant très longtemps, parce que c'est un morceau qui pousse les peuples à se réveiller, à réclamer leurs droits. Et donc, dès que ce monsieur m'a expliqué cette chanson, c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, le reggae, c'est une musique qui est différente des autres. C'est une musique de combat. Et donc, c'est à partir de ce moment que je me suis dit, mais ce combat-là mérite d'être mené en Afrique. Et c'est là que j'ai commencé à composer des chansons.
Ça fait plus de 25 ans que vous en faites de la musique. En France, votre popularité s'est vue récompensée il y a 15 ans par une victoire de la musique sur l'album France-Afrique. Et pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est dommage. Tiken Jaffa Coli, c'est ça. C'est aussi ça.
Ils ont partagé le monde. Rien ne m'étonne.
C'est aussi cette variation sur l'Englishman in New York de Sting.
Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.
Toujours des airs de combat, de révolution.
We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be African education.
Parler de Bob Marley, Tiken Jaffa Coli. Vous dites j'écoutais Bob Marley tout le temps, mais comment vous l'avez découvert, Bob Marley? Vous vous en souvenez? C'était où? C'était quand? C'était avec quel disque exactement?
Je pense que c'était dans les années 77-78, par là. J'étais puni par mon père qui m'a expédié dans son petit village sans électricité, parce que moi j'aimais beaucoup danser. J'étais dans une grande ville, donc tous les soirs, au lieu d'étudier, j'allais danser. Et mon père m'avait prévenu que si ça ne se passe pas bien en fin d'année, et qu'il va m'expédier dans un village où je ne pourrais pas danser. Et donc c'est ainsi qu'il m'envoie là-bas. Il n'y avait pas d'électricité, mais les jeunes du village se débrouillaient quand même chaque week-end pour organiser une petite soirée dansante. Et donc c'est là que j'ai découvert le reggae, en fait. Parce que quand j'étais en ville, j'ai dansé sur les autres musiques. Et voilà, les villageois, ils jouaient beaucoup de reggae. Et donc c'est là que j'ai découvert cette musique-là.
Mais chez vos parents, Tiken Jaffa Coli, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique à l'époque?
Mes parents écoutaient beaucoup de musique mandingue. C'est une ethnie de l'Afrique de l'Ouest. Donc Salif Keïta, par exemple, chante en mandingue. Je donne un exemple. Donc mon père écoutait Salif Keïta, il écoutait Mamadou Doumbia, voilà, il écoutait de Ami Koita, des anciens, quoi.
Et vous pensez que cette musique-là vous a aussi influencé, a façonné votre vision du reggae?
Ah oui, c'était le fait que j'ai grandi avec cette musique-là, ça m'a permis de donner aujourd'hui une couleur africaine au reggae, avec les instruments comme le ngoni, la kora, le soukou. Donc, je pense que nous, en tant qu'Africains, on ne fera pas mieux le reggae que les Jamaïcains, parce que ils ont créé cette musique-là, ils ont grandi avec ça, c'est leur truc. Mais nous, on peut prouver que les Jamaïcains sont venus d'Afrique. Voilà, donc en ajoutant des instruments traditionnels dans Get Up, Stand Up, et que ça marche bien, c'est la preuve que les Jamaïcains eux-mêmes viennent d'Afrique.
Ce que ça raconte en tout cas, c'est que la musique n'a que faire des frontières dans ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il vous évoque, tiens d'ailleurs, ce mot frontière, Tikenja Fakoly, vous, qui n'avez jamais cessé d'inviter à les abolir, les frontières. Je pense évidemment à l'un de vos titres qui était en duo avec Soprano, qui s'appelait Ouvrez les frontières, que l'on retrouvait sur l'album L'Africain, Frontières.
Ouais. Je pense qu'effectivement, les frontières doivent être abolies. De toute façon, l'avenir du monde, c'est que voilà, les gens vont se mélanger, les gens vont se rapprocher, les frontières, voilà, à mon avis. Hein,
y compris pour des raisons climatiques,
ouais,
d'ailleurs.
Pour des raisons climatiques. Donc, mais cette chanson, Ouvrez les frontières, je l'ai chantée à l'époque pour dénoncer une injustice. Parce que vous savez, y a une injustice tellement flagrante. Les Occidentaux, ils peuvent aller en Afrique où ils veulent, quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent, prendre ce qu'ils veulent et rester s'ils veulent. Mais dès qu'un Africain décide de venir en France ou aux États-Unis, ça devient un gros problème. Il faut faire des sacrifices des moutons, on te demande 500 000 papiers, etc. Donc il fallait absolument dénoncer cette injustice-là. Sinon, effectivement, moi, en tant que leader d'opinion aujourd'hui, je me dis, la place de la jeunesse africaine, c'est en Afrique pour pousser ce continent-là. Et d'ailleurs, c'est un continent, c'est le continent de l'avenir. Aujourd'hui, quand on voit tous les gens qui débarquent en Afrique, c'est que ça sent quelque chose de bon. Parce que quand ça sent pas bon, les gens, ils y vont pas. Et donc, moi, j'ai dit aux jeunes Africains aujourd'hui qu'on a, on a un continent super. Ça fait seulement 57 ans que la majorité des pays africains ont eu leur indépendance, donc leur liberté. Donc, nous sommes des pays jeunes, nous sommes un continent qui n'est qu'au début. Et donc, tout reste à faire alors que tout a été fait ici.
On va en reparler évidemment, mais d'abord, celle qui en a des frontières dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Tiken, c'est la culture hein, et son actualité butée, bornée, renfermée sur elle-même. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 29 mai? Du beau, du bon, du Bondré. Le prix SNCF du Polar 2019 a été attribué hier à Bondré de l'auteur québécoise André Amichaud, paru chez Rivage en 2017. Le roman a été choisi par près de 40 000 lecteurs qui ont voté en ligne entre octobre et mai sur fond d'ambiance 60s à la frontière du Québec et du Maine. Le récit met en scène la disparition inquiétante de deux adolescentes pendant l'été 67 avec Shérif, Trappeur, Piège à ours, le roman Fleurbon, Les grands espaces, la fin de l'enfance, la nostalgie rétro. On dit bravo.
Grand petit con, quand je...
Francophonie des grandeurs. Pour célébrer ses 35 ans d'existence, le Festival Rochelet voit les choses en grand. En plus de réunir du 10 au 14 juillet prochain la fine fleur de la scène française, notamment M, Jean-Louis Aubert, Zazie, Chris, le festival innove et propose un cycle inédit de biographies musicales titré « J'ai la mémoire qui chante ». L'événement invitera François Hollande, figurez-vous, Michel Houellebecq, Jean Tellet et Fanny Ardant à venir se raconter en public et en musique. Mich Mich au platine, on l'avait pas vu venir. On a hâte d'entendre ce que ça donne.
Mais j'adore l'abstrait.
L'œil qui frise. Pour bien amorcer ce week-end de l'Ascension, le Centre Pompidou inaugure Sans repentir, une grande rétrospective consacrée au peintre Bernard Frise. Près de 70 toiles, tout en couleurs, volutes, légèreté, pour retracer le parcours de ce Français, maître de l'abstrait et du conceptuel sériel. Dans le même temps, la Cité de l'architecture et du patrimoine propose quant à elle le mobilier d'architecte de 1960 à 2020. Immense expo sur l'histoire des arts déco réunissant plus de 250 pièces, signées notamment Eames, Jean Nouvel, Franck Guéry. C'est que chier. Ah, et mercredi de réchauffement, Elton à l'échauffement, parce qu'aujourd'hui dans les salles obscures, l'événement, c'est évidemment la mise à feu de Rocketman, vrai faux biopic musical consacré à la carrière du flamboyant Elton John, signé Dexter Fletcher, produit par Elton lui-même. Le long métrage présenté à Cannes en grande pompe romance les métamorphoses du petit Reginald Kenneth Dwight, devenu l'icône de la glam pop mondiale au tournant des années 70, amour, excès, tube à la chaîne. Le film s'impose comme une grand-messe queer, pop et kitsch. Chaud devant. Mais c'est le musicien Tikenja Fakoly qui est mon invité de Boomerang ce matin pour son nouvel album. On en parlait, le monde est chaud. Vous êtes né à la fin des années 60, Tiken, à Odienné, à plus de 800 km au nord d'Abidjan. Quelles images est-ce que vous gardez de cette ville où vous êtes né?
Une image positive, une image traditionnelle. Enfin, le village avec les cases, à l'époque, il y avait des cases dans des quartiers encore. En tout cas, je garde un bon souvenir de ma ville natale.
À quel destin est-ce que vous alliez, en fait? À quel avenir on vous destinait?
Je pense qu'il y a quelqu'un qui est passé à la maison un jour et qui a discuté avec mes parents. Je les entendais, et puis on était cinq garçons. Il disait que tel va être infirmier, tel va être ceci. Mais je me rappelle plus ce qu'il avait prédit
dommage,
pour moi. Mais en tout cas, ça n'avait rien à voir avec la musique. De toute façon, je pense que s'il avait dit ça, mes parents allaient commencer à s'opposer déjà. Parce qu'il faut savoir que dans ma ville natale, chanter, c'est carrément être prêt pour aller en enfer. Hein, parce qu'il y a 90% de musulmans, donc c'est un peu... les gens ont une vision bizarre des artistes. Ils aiment bien les artistes, mais ils pensent que c'est pas bon de chanter. Donc je pense que si le gars il avait dit ce jour-là que j'allais être artiste, mon père allait dire non.
Ah ben là, il vous aurait envoyé dans un autre village,
ça,
hein, comme tout à l'heure.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est une certitude, Tiken. Mais alors, comment est-ce que vous êtes parvenu à affirmer ce désir, justement, de devenir musicien? C'était quelque chose, je suppose.
Quand j'ai arrêté l'école, parce que mon grand frère, qui était l'héritier, enfin, après le décès de mon père, n'avait pas les moyens de payer la scolarité de cinq garçons, de cinq personnes. Et donc moi, j'ai arrêté l'école. Et puis, ma famille m'a demandé si je pouvais faire un travail pour aider le grand frère. Et donc moi, j'ai dit, bon, je vais chanter. Et on a dit, non, chanter, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va rapporter, etc. Donc, moi, j'étais un garçon qui écoutait beaucoup la famille. Donc, ils ont décidé que je fasse du commerce. Donc, j'achetais des œufs en Côte d'Ivoire, j'allais vendre en Guinée, j'ai fait ça pendant 2 ans. Mais parallèlement à ça, j'achetais des instruments de musique et je me cachais pour faire mes répétitions. Et puis un jour, le commerce a commencé à ne pas marcher et mon frère il s'est énervé, il a pris ses sous et c'est comme ça que j'ai eu la liberté. J'ai eu ma liberté en tout cas pour faire la musique.
Ce qui est fou quand même, c'est ce départ. C'est cette ville d'Odienné où vous n'êtes pas resté, que vous avez fini par quitter pour Abidjan, à plus de 800 km au sud. Ce trajet d'Odienné vers la capitale, j'imagine que vous n'avez pas été le seul à le faire, Tiken.
Ah oui. Oui, il y a beaucoup de personnes qui le faisaient. Mais,
pour quelle raison est-ce qu'on quittait?
On quittait parce que Abidjan c'était moderne, il y avait plus de boulot, il y avait plus de possibilités, même pour un artiste, tu vois, au dîner, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio, donc il fallait aller à Abidjan pour pouvoir passer à la télé. Mm-hmm. Donc voilà, c'est pourquoi je suis à Abidjan un moment.
Mais je vous pose la question parce que la lutte contre l'exode rural, ça a été un de vos combats en réalité, Tikenja Fakoly. Quelles sont les conséquences de cet exode rural sur un pays comme la Côte d'Ivoire?
Mais les conséquences de l'exode rural, c'est qu'on se retrouve avec du poisson chinois dans nos sauces, on se retrouve avec du riz taïwanais, parce que tous les jeunes qui sont dans le village sont partis, qui étaient dans le village, qui allaient au champ, et qui nous permettaient d'être autosuffisants sur le plan alimentaire, ils sont partis. Moi, je me rappelle, quand j'étais au village, tous les week-ends, j'allais au champ. Mon grand-oncle qui m'a élevé, il avait son champ de maïs, de mil, de riz. Et ses femmes avaient... il était polygame, donc il avait 3 femmes qui avaient chacune leur jardin. Donc tout ce qui allait dans la sauce, les femmes le cultivaient. Et puis tout ce qui allait dans la grande marmite, donc c'est le grand-oncle qui le cultivait. Donc on était 15 dans la famille. Et mon grand-oncle qui donnait 2 francs, je parle de l'ancien franc français, hein, 2 francs, comme popote pour nourrir 15 personnes, parce qu'on avait tout à la maison. Mmh. Et c'est ce qui n'existe pas aujourd'hui. Tous les jeunes sont partis, tous les jeunes qui sont dans les villages...
Parce qu'ils ont d'autres rêves.
Oui, ils ont d'autres rêves, mais je pense que ce serait important que les gouvernants mettent une politique en place, une politique agricole qui puisse pousser ces jeunes-là à rester. parce que ça ne sert à rien de faire venir du riz de Thaïlande alors qu'on peut cultiver le riz en Côte d'Ivoire.
Donc ça passerait par ça, en fait, pour faire que l'exil n'apparaisse pas comme la seule option possible pour un jeune garçon ou une jeune fille de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, pour offrir à la jeunesse d'un pays les opportunités,
d'autres opportunités. Il faut leur offrir des opportunités. Et je pense que c'est la seule solution.
Vous qui êtes parti, Tikenja Fakoly, qui avait été forcé pendant de longues années à quitter la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous ressentez quand vous retournez là-bas, sur la terre de votre enfance?
Mais quand je retourne aujourd'hui, bon, je suis heureux parce que la guerre est finie. Aujourd'hui, on a atteint un certain niveau de stabilité. Donc, quand je retourne, je suis content. Maintenant, bon, c'est vrai que la majorité des Ivoiriens sont inquiets parce que l'année prochaine, c'est les élections présidentielles. Vous savez, les élections chez nous, c'est pas comme chez vous. Moi, j'ai assisté le jour à l'élection des Européennes, là. Et c'était incroyable. Tout était tranquille, il n'y avait pas de barrage, il n'y a pas de tension, les gens discutent, il y a des débats à la télé, à la radio. Voilà, pour nous, ça, c'est des choses qu'on souhaite pour les pays africains dans l'avenir. Parce que chaque élection, c'est un problème. Et donc, voilà. Mais en tout cas, quand je retourne aujourd'hui, je suis content parce que la Côte d'Ivoire commence à être stable. Il y a beaucoup de points positifs, mais les politiques manquent de sagesse.
Bon, on va y revenir, évidemment, sur ces enjeux politiques, cette terre d'enfance, de musique, après Le Monde est chaud, votre nouveau titre en duo avec Soprano, France Inter, Tikenja Fakoly, Boomerang, évidemment.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois le manigance, le calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes. Et ça depuis des siècles. Mais il est temps de leur dire stop. Il est temps qu'ils assument leur faute. Je vois la chute en suivant leur sort. Leur priorité c'est leur confort. Voilà pourquoi
le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Je respire la fumée, je suis à bout de souffle. Je vois les flèches faner, l'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, c'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il a cette énergie du leader charismatique, vous savez, cette aura de l'homme ordinaire dont la voix soudain s'élève et nous guide vers la lumière. Regard d'aigle royal capable de discerner une petite souris, plus de 1000 mètres d'altitude, force, souplesse, sans oublier un sourire communicatif qui vous donne envie de faire la paix avec tout le monde, même avec votre pire ennemi, avec sa veste bleue et ses écussons aux couleurs rasta, lion, Afrique, Dja, le musicien ivoirien Tikenja Fakoli, invité de Boomerang ce matin pour Le Monde est chaud, son nouvel album, où vous demandez des comptes hein, quand même, Tiken, à nos dirigeants, et où vous continuez également de prôner l'union des peuples africains. Pourquoi, selon vous, la force naît-elle de cette union ?
Moi, je pense que, de toute façon, il n'y a aucun pays africain qui ne pourra s'en sortir tout seul. Je pense que nous sommes 54 pays, nous avons la plupart des matières premières dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. Donc, il suffit qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, on n'écoute pas les pays africains parce que c'est des petits pays dispersés. On écoute les États-Unis parce que c'est 50 ou 52 États. On écoute la Russie parce que c'est la grande Russie. On écoute la Chine parce qu'elle est grande, parce qu'elle est peuplée.
Dispersée et divisée.
Et divisée. L'Afrique. Donc, moi, je prône l'unité. Je pense que le jour que l'Afrique sera unie, les 54 pays ensemble, ça peut être dans 50 ans ou 100 ans, c'est ce jour-là qu'on va nous écouter. C'est ce jour-là qu'on va nous écouter aux Nations Unies, parce qu'on ne nous écoute nulle part. Si on nous avait écoutés, alors Kadhafi n'allait pas être tué là, et on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Parce que voilà, il y a cette situation au Sahara aujourd'hui, où il y a les histoires des terroristes, tout ça, c'est parce que la Libye est désintégrée. Et donc moi je dis à tous les Africains que notre seule porte de sortie, c'est l'unité. Il faut faire tomber les frontières, nous mettre ensemble, avoir une seule voix, parler par une seule voix, je veux dire.
Vous le disiez, en 2020, auront lieu les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire dans un climat qui est très tendu. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la part des futurs candidats? Cette idée, justement, de l'union, Tiken?
D'abord, ce que j'entends en Côte d'Ivoire, c'est que les deux anciens président, donc le président Alassane Ouattara qui est au pouvoir en ce moment, l'ex-président Laurent Gbagbo qui sort de prison, et le président qui était là avant qui s'appelle Henri Konan Bédié, que je souhaite que ceux-là ne se présentent pas.
Oui.
Voilà, parce que ça fait, dès qu'ils se présentent, les élections en Côte d'Ivoire vont devenir un règlement de compte entre les trois, et donc qu'ils choisissent des jeunes dans leur camp et qu'ils les poussent. Mais qu'eux, ils se retirent. Vous savez, le président Henri Konan Bédié était président quand Jacques Chirac était président. Voilà, donc il veut être candidat encore. Le président Laurent Gbagbo aussi a été président. Voilà, donc qu'ils sachent rentrer, qu'ils essaient de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Et donc je pense que si eux se retirent, on peut avoir des élections, on pourra avoir des élections calmes. Mais si eux se présentent, on aura que des règlements du compte.
De quelle révolution est-ce que vous rêvez, en fin de compte, Tikenja Fakoli? Ce mot révolution qui revient toujours chez vous.
Moi, la révolution dont je rêve, c'est voir les Africains descendre dans les rues sans casser pour réclamer leurs droits. Parce que, voyez-vous, nous, en Afrique, on compte beaucoup sur Dieu pour venir changer les choses à notre place. Mais quand on regarde, moi, je regarde dans l'histoire de la France, ou l'histoire des États-Unis un peu partout. Je pense que le général de Gaulle aurait pu rester à Londres et puis dire Dieu est grand, Dieu va sauver la France. Et donc moi je souhaite que les Africains, dans l'unité, lorsque il s'agit en tout cas de l'emploi, quand l'emploi est touché ou la santé est touchée, je souhaite que les Africains dans leur pays différent, que dans l'unité, en tout cas ils descendent dans les rues pour protester. Et c'est ce que je ne vois pas aujourd'hui, et ça, ça me...
Ce qui est intéressant, en tout cas, sont les actions que vous mettez en place pour donner de l'espoir, justement, création d'écoles, ouverture d'un studio à Yopougon, à Abidjan, qui est à la fois studio d'enregistrement, bibliothèque, lieu de rencontre, ce studio de radio libre, de quoi est-ce qu'il est le symbole pour vous, Tikenja Fakoli?
Mais moi, j'ai tellement galéré pour faire passer mes titres à la radio, je ne peux même pas raconter, donc j'ai décidé de faire cette radio-là pour participer un peu à la promotion des jeunes artistes, et puis donner aussi la parole à des gens qui ont envie de s'exprimer. C'est l'objectif avec cette radio. Il y a la bibliothèque reggae aussi, c'est la première bibliothèque de reggae en Afrique. Et donc, comme il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire, qui veulent chanter comme nous, et puis il y en a qui font beaucoup d'amalgame par rapport au rastafarisme, ils considèrent les rastas comme les fous. Donc, je donne la possibilité à tout le monde de venir s'informer sur le rastafarisme. Et puis, les salles de répétition que j'ai faites, c'est pour donner la possibilité aux jeunes de répéter dans les mêmes conditions que moi, ici en France.
C'est pas étonnant et c'est pas innocent que vous ayez choisi d'enregistrer ce nouvel album à Abidjan.
Oui, je voulais faire un retour aux sources. Donc j'ai enregistré à Abidjan avec des musiciens ivoiriens et dans un studio, dans mon nouveau studio que je viens de monter. Et le but, c'était de retrouver le son d'avant. Voilà, parce que mon public a commencé à dire que ma musique est bien, mais qu'ils ont la nostalgie des sons de Mangécratie, les anciens sons. Donc il fallait aller chercher ça au pays, quoi. Donc c'est ce qui m'a amené à retourner aux sources.
Alors on va retourner aux sources, on va retourner à vos origines, puisque vous allez élever la voix et reprendre à votre façon ce matin. C'est un cadeau que vous nous faites, un titre de Bob Marley de 1976, le titre War, qui était sur son album Rastaman Vibrations. On vous écoute, Avelino à la guitare, Andra Kouyaté au Ngoni viennent de s'installer dans le studio à vos côtés. C'est à vous, Tiken Jaffa Koli.
Until the philosophy, which all one runs superior and another inferior, is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war, misery war. That until they're no longer first class and second class citizens and any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, I miss a while. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, and this a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, remaining but feeling in illusion to be pursued but never written. Now everywhere is war, misery, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brother in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, utterly destroyed. Well, everywhere is war, misery war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war, room of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We African will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory. A good over evil, a good over evil, yeah. A good over evil, a good over evil, yeah. A good over evil, a good over evil, a good over evil, yeah.
Yes I, Rastafari, Tiken Jaffa Coli, yes. Accompagné d'Avelino à la guitare et d'Andra Kouyateo Ngoni reprennent War de Bob Marley. C'est exclusivement dans Boomerang. Merci infiniment.
C'est moi.
Vraiment, merci aussi à Kevin Pelot pour la prise de son ce matin à la radio. Très belle. Je rappelle, Tiken, que votre nouvel album Le Monde est chaud vient de paraître, que vous êtes actuellement en concert dans toute la France, en Europe, même dans le monde entier, de Juvigny ce soir au Mans, en passant par Montréal, Évreux, Bruxelles, Carcassonne, Chanac, sans oublier les 14 et 15 novembre à l'Élysée Montmartre. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers.
Encore, c'est génial.
Ah, je savais que vous aimeriez bien ça. Je me disais, Sonia doit être en train de danser dans son studio.
Merci beaucoup,
très
les amis.
Très instant M, Tiken Jaffa Coli.
Oui,
on vous embrasse.